Bonsoir et bienvenue donc pour ce nouveau cycle de cours de l'Université populaire donc consacré cette année à Richard Wagner et la philosophie. Alors dans cette séance d'aujourd'hui, il y aura en quelque sorte, ce sera une séance doublement introductive. Je vais faire deux introductions, la séance elle-même étant en quelque sorte une introduction où en présentant la biographie de Richard Wagner, je vais essayer de donner un certain nombre d'éléments de repérage et pour que voilà le portrait de l'individu soit planté pour qu'on puisse s'y repérer dans la suite lorsque j'évoquerai différents aspects soit de sa personnalité, soit de son œuvre. Mais auparavant, je vais dire aussi quelques mots sur alors, sur la manière dont j'ai conçu le cours, sur la succession des séances, et puis également sur ce qu'il y aura dans le cours, mais ce qui veut dire aussi ce qu'il n'y aura pas. Ceci pour que vous soyez prévenus que je pourrais peut-être pas répondre à certaines attentes que vous seriez susceptibles de nourrir à l'égard du thème du cours. Alors, s'agissant donc, petite parenthèse, donc il y a une bibliographie qui est sur la table avec les programmes, et cette bibliographie, vous pouvez la trouver aussi sur le site de l'Université populaire où vous pouvez la télécharger. Donc c'est l'ensemble, pas l'ensemble, mais les ouvrages les plus importants auxquels je me référerai ou que je discuterai dans l'ensemble donc des cinq séances. Alors s'agissant aussi de la biographie de Richard Wagner, donc il va m'occuper pour l'essentiel du temps de cette séance, je peux déjà établir un lien avec le thème de l'année de l'Université populaire, hein, pouvoir et contestation. Alors c'était un petit peu difficile pour moi d'établir une connexion avec ce thème général de l'année, mais j'ai fini par le trouver. C'est-à-dire que Richard Wagner, il a parcouru le chemin inverse à celui qui était suggéré par ce thème, hein, parce que j'évoquerai ça plus en détail tout à l'heure. Il a commencé du côté de la contestation, hein, vu que dans les années 1849, il a participé activement à une insurrection révolutionnaire à Dresde, aux côtés de l'anarchiste bien connu Michel Bakounine. Hein, pour l'anecdote, Michel Bakounine, celui qui a lancé un appel à la révolution quelques années plus tard, en 1871, du haut du balcon de l'hôtel de ville de Lyon, hein, place des Terreaux, c'est aussi quelqu'un qu'on a croisé ici. Donc il était du côté de la contestation, mais il a fini ses jours du côté clairement du pouvoir, vu que il s'est mis sous la protection d'un monarque, hein, Louis II de Bavière, qui a financé ses opéras. Donc c'est du côté du pouvoir qu'il a produit ses dernières œuvres. Donc voilà, c'est le cheminement inverse de celui qui a été suggéré par le thème de cette année, mais c'était aussi intéressant de prendre ce thème à rebrousse-poil. Alors, je vais passer immédiatement donc à mon premier point, qui est une sorte d'introduction générale au cours. Donc ce cours, il a pour titre Richard Wagner et la philosophie, ce qui mérite d'être précisé parce que peut y avoir une part d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas ici d'évaluer l'influence d'un certain nombre de philosophes sur Richard Wagner et sur son œuvre. Ça aurait été légitime, ça aurait été certainement très riche. Je serai amené également dans le fil du cours à y faire référence parce que Richard Wagner a été un grand lecteur de toutes sortes d'écrits et notamment d'écrits philosophiques qui ont influencé sa conception du monde et et sa conception de l'art, hein, par exemple Schopenhauer ou Feuerbach. Également, mais ça j'en parlerai plus en détail la semaine prochaine, il a été en rapport étroit avec un philosophe qui est Friedrich Nietzsche. Mais aussi ce que ces biographes signalent, c'est qu'il n'est pas certain que lorsque Richard Wagner lisait des philosophes, il les comprenait toujours très bien. Il y a un certain nombre d'anecdotes qui laissent planer un certain doute là-dessus. En tout cas, il n'avait pas suivi de formation philosophique très poussée. Et donc, c'est pas de ça qui va m'intéresser le plus dans ce cours. Ce qui va davantage m'intéresser, c'est la manière dont des philosophes ont été influencés par Richard Wagner, ont été inspirés par lui, ont trouvé en tout cas matière à réflexion dans son œuvre et ont produit des réflexions sur cette œuvre ou à partir de cette œuvre. Et je vais suivre un fil chronologique pour aborder ces philosophes en partant donc d'un contemporain de Richard Wagner, hein, celui que je viens d'évoquer, Nietzsche, qui a longuement fréquenté Richard Wagner avant de se fâcher avec lui. Et son œuvre, elle est aussi en dialogue ou en polémique avec celle de Richard Wagner, parce qu'ils ont aussi des thèmes de préoccupation communs, comme la question du héros, la question de l'art dans l'existence, le christianisme, etc. Donc ça, c'est la semaine prochaine. La semaine suivante nous amènera à Théodore Adorno, qui est connu comme un philosophe et sociologue allemand du XXe siècle, qui est mort en 1969, mais qui était aussi un musicien, et dont le commentaire de l'œuvre de Wagner entrecroise les dimensions proprement philosophiques et des considérations proprement musicologiques. Et puis ensuite, on passera à quelqu'un qui est plus proche de nous, parce qu'il est décédé simplement il y a 3 ans, qui est Claude Lévi-Strauss, donc un anthropologue français, spécialiste de l'étude de la parenté, de l'étude des mythes des Indiens d'Amazonie, mais qui est aussi et surtout connu comme un grand théoricien des sciences sociales, auquel il a proposé une méthode d'analyse qui est donc celle du structuralisme. Je développerai ça dans la séance qui lui sera consacrée. Mais un des aspects pas forcément le plus connu de cette démarche des sciences sociales, c'est donc du structuralisme, c'est que, telle que en tout cas Lévi-Strauss l'a construite, elle s'inspire explicitement de la manière dont Richard Wagner composait aussi sa musique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez original, sur lequel on s'arrêtera donc dans 3 semaines. Et puis, dans la dernière séance, j'évoquerai des auteurs qui, eux, sont toujours vivants, qui sont les philosophes français Jacques Rancière et Alain Badiou, et le philosophe slovène Žižek, Slavoj Žižek, donc qui ont des perspectives très différentes, mais qui ont pour point commun, outre le fait d'avoir écrit sur Wagner, de s'inscrire dans un héritage à chaque fois un petit peu particulier, très singulier dans chacun des cas, mais un héritage du marxisme. Alors, une remarque importante, toujours remarque liminaire, c'est que le terme de philosophie dans mon titre ne doit pas être entendu dans un sens restrictif. Adorno, il est aussi considéré comme un sociologue, Lévi-Strauss est un anthropologue, Žižek est un peu inclassable, il emprunte à la psychanalyse, à la philosophie, c'est quelque chose d'assez insaisissable. Néanmoins, ce qui les rassemble, donc, c'est qu'ils s'inscrivent dans une réflexion esthétique lorsqu'ils traitent de Richard Wagner, mais il sera aussi question de sciences sociales, et la référence à la philosophie n'est pas à prendre au sens strict. Notamment parce que philosophie et sciences sociales sont en dialogue constant et se nourrissent l'une l'autre. Alors, quelques mots aussi sur la manière dont j'ai envisagé et construit le cours. Une précision importante, c'est aussi sur l'aspect ce que vous ne trouverez pas dans mon cours. C'est des considérations proprement musicologiques, parce que j'en suis totalement incapable. Je ne suis pas du tout musicologue, je suis assez largement incompétent en la matière. Je suis spécialiste en sciences sociales, sociologue et de formation. Donc mon propos en restera au seul niveau de la dimension sociologique, philosophique ou anthropologique de l'œuvre de Richard Wagner, telle qu'elle a donc inspiré ses différents penseurs. Aussi quelques éléments plus personnels sur mes motivations à proposer ce thème pour mon cours de cette année. Alors, c'est un point qui me semble nécessaire, parce que ceux et celles qui ont suivi mes cours des années précédentes ont peut-être été un peu surpris par ce thème. Parce que donc je suis sociologue, spécialiste avant tout des mouvements sociaux. Donc du coup, j'avais fait les années précédentes des cours sur mai 68 ou sur les mouvements des années 70. Je travaille aussi sur la prostitution, d'où le cours sur sexe et politique, ou celui de l'année dernière sur la sociologie de la déviance. Donc c'est des thématiques qui sont assez loin de la quête du Graal et de la chevauchée des Valkyries. Par ailleurs, je viens d'un horizon politique où Wagner a plutôt mauvaise réputation, et pour des bonnes raisons, c'est-à-dire du fait des usages politiques qui ont pu être faits de son œuvre après sa mort, aussi de ses propres prises de position antisémites que j'évoquerai tout à l'heure. Mais pour autant, je suis amateur de musique wagnérienne, et donc ce sont les raisons de ce goût improbable que je voudrais un peu expliciter. En fait, ma rencontre avec la musique de Richard Wagner, elle a eu... c'est Claude Lévi-Strauss qui y a d'une certaine manière présidé, parce qu'il y a une vingtaine d'années, je faisais des études en anthropologie, donc je lisais du Lévi-Strauss. Et ma curiosité avait été attisée par la récurrence des références à Richard Wagner, donc dans l'œuvre d'un anthropologue juif qui a dû fuir la France pendant la Seconde Guerre mondiale pour se réfugier aux États-Unis. Donc voilà, ça me semblait assez curieux que cet anthropologue, avec cette configuration personnelle qui était la sienne, revendique Wagner comme une source d'inspiration. Donc, j'ai eu aussi la chance d'être servi au même moment, c'était il y a une vingtaine d'années, par un incomparable outil de démocratisation culturelle, qui est la télévision. Je le dis contre la tentation que je serais amené à évoquer aussi dans un prochain cours, d'y voir uniquement un instrument d'abêtissement des masses. Mais à la même époque, Arte a diffusé le ring dans la mise en scène qui est restée célèbre, que j'évoquerai aussi dans une prochaine séance de Patrice Chéreau. Et donc, poussé par la curiosité, j'ai regardé ces retransmissions et c'est là que je suis devenu amateur de musique wagnérienne. Et par la suite, j'ai approfondi ma connaissance de l'œuvre, à la fois en écoutant les disques, en me rendant à l'opéra et puis aussi en lisant les écrits d'intellectuels qui se sont intéressés à ce musicien. Et donc ce trait assez remarquable d'un musicien qui inspire des intellectuels m'a semblé mériter donc qu'on consacre un cours au rapport entre Wagner et la philosophie au sens large. Et puis, toute dernière chose, c'est que dans ce cours, je ne cherche pas à convertir au wagnérisme, ni à réhabiliter une œuvre polémique. On a parfaitement le droit de ne pas aimer sa musique et de trouver le personnage détestable en sortant du cours. Mais voilà, simplement, je veux montrer que son œuvre est digne d'attention, pour paraphraser Lévi-Strauss, je ne sais pas si c'est bien ou bon en soi, mais c'est bon à penser ce type de musique. Et donc j'en diffuserai, alors aujourd'hui, j'en ai mis un petit peu pour qu'on puisse trouver plus facilement la salle, suivant la musique peut-être, mais j'en passerai juste un petit extrait tout à l'heure. Mais dans d'autres séances, je passerai plus largement des extraits de musique de Richard Wagner. Donc voilà, c'était l'introduction à l'introduction. Je vais passer à mon second point, donc la matière propre de cette première séance. Alors je l'ai intitulé « Richard Wagner, sa vie, son œuvre, ses dettes ». C'est une manière de souligner de manière un peu plaisante, mais aussi un peu sérieuse, que... À la fois, oui, la vie de Wagner a été très longtemps déterminée par ses dettes, par ses problèmes d'argent, mais aussi c'est une invitation à une démarche matérialiste, c'est-à-dire rapporter l'œuvre d'art à ses conditions matérielles de production. Et dans le cas présent, c'est quelque chose de particulièrement important. Donc, ce que je vais essayer de tracer dans cette séance, le temps qu'il me reste, c'est un portrait sociologique de Richard Wagner, avec à la fois une difficulté et quelques ressources, malgré tout, pour surmonter cette difficulté. La difficulté, c'est que, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas d'analyse proprement sociologique de la trajectoire de Richard Wagner. Ça a été fait pour d'autres musiciens, et j'y reviendrai dans un instant, mais on n'a pas une analyse sociologique, proprement sociologique, armée des outils des sciences sociales, pour traiter de cette personnalité-là. On dispose de biographies dont certaines sont très complètes, mais le propre de la biographie, c'est de livrer un récit chronologique, plus ou moins thématisé d'une existence, mais pas de la problématiser comme en sciences sociales. Alors, c'est notamment le cas de la biographie que j'ai mise en biblio de Martin Grégor Delin, qui a un énorme pavé de 1000 pages, dont je me suis très largement inspiré, où on sait tout des maux d'estomac et des différents chiens qu'a eu Richard Wagner, mais voilà, il manque un petit peu de problématisation. Mais c'est au lecteur sociologue de faire l'analyse lui-même. Et puis ce qui manque aussi cruellement, c'est des outils sociologiques pour comprendre comment fonctionne le monde de la musique du 19e siècle, de l'époque où Richard Wagner a produit ses œuvres. On sait peu de choses, en tout cas en français, sur la manière dont le monde de l'art, et spécialement le monde de la musique en Europe, est structuré. sur comment on devient musicien, sur comment se déroulent les carrières, sur les principes aussi de hiérarchisation interne au monde de la musique, à ce que Pierre Bourdieu, donc sociologue de l'art, décrirait comme un chant, hein, un chant artistique. Et notamment chez Pierre Bourdieu, les chants artistiques sont clivés, c'est-à-dire que vous avez deux positions extrêmes, deux pôles extrêmes, qui sont un pôle dominant du point de vue esthétique, qui est occupé par les artistes les plus exigeants en matière d'art, hein, mais dont le public, d'une certaine manière, ils n'ont que leurs concurrents ou leurs confrères pour public. Donc ils n'ont pas un public très large, en général ils ont des gros soucis de fin de mois. Et puis vous avez à l'opposé un pôle commercial qui, comme son nom l'indique, est celui de la production la moins exigeante du point de vue esthétique, mais qui rencontre un large public de profanes, de gens qui ne sont pas des spécialistes en matière esthétique. Alors, c'est quelque chose que Pierre Bourdieu, dans son livre, là aussi mis en bibliographie, Les règles de l'art, qui se constitue, cette structure bipolaire du monde de l'art, se constitue selon lui au XIXe siècle, quand les artistes deviennent moins dépendants des mécènes et peuvent davantage vivre de leur art, d'un public, hein. C'est aussi un moment où le monde de l'art se dote d'une idéologie spécifique, celle de l'art pour l'art, avec en littérature des personnalités comme Flaubert. Bon, pour ce qui est de la musique en Allemagne au XIXe siècle, c'est un petit peu difficile de savoir si ce modèle-là, il est totalement pertinent ou pas, hein. Néanmoins, je vais le garder dans une certaine mesure comme une boussole, comme quelque chose qui permet de se repérer. Alors, on a peu d'éléments systématiques donc dans les biographies de Wagner sur sa situation, sa position dans le champ de la musique. Alors, en Allemagne, mais je dirais plus largement en Europe. C'est-à-dire que dans son cas, plus particulièrement, on est dans une européanisation déjà constituée de la musique. Hein, on verra qu'il va pas mal voyager, diriger et produire ses opéras dans différentes villes. Alors, on manque d'éléments, mais on dispose de ressources en regardant chez un autre sociologue, qui est Norbert Elias, donc sociologue d'origine allemande, qui est né en 1897 et mort en 1990, qui a consacré un travail qui est resté inachevé à un autre musicien, qui est Mozart. Donc, dans ce livre « Mozart, sociologie d'un génie », qui a été traduit aux éditions du Seuil en 1991, alors là, c'est véritablement, c'est ce qui manque pour Wagner, c'est un portrait sociologique, c'est pas simplement une biographie, mais une tentative d'expliquer sociologiquement comment Mozart a été produit comme musicien, hein, et comme génie, en replaçant ce personnage-là dans une série de configurations sociales, notamment dans sa famille. Hein, on sait que Mozart est né dans une famille de musiciens, également dans sa socialisation. Bon, dans cette famille de musiciens, on l'a soumis dès sa plus tendre enfance à une formation de musicien intensive, hein, avec des dispositifs d'apprentissage extrêmement systématiques et précoces pour qu'il devienne musicien, et ça va dire que ça a réussi plus qu'espéré. Et puis dans le monde de la musique qui était le sien à cette époque, dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que Mozart était un musicien de cour qui se plaçait au service de nobles puissants, des nobles qui l'employaient pour produire de la musique à la commande. Et nous dit Norbert Elias, Mozart c'était un musicien bourgeois dans une société de cour. C'est-à-dire que c'était un domestique de luxe. Néanmoins, c'était un domestique. Et une des tensions internes qui a rongé Mozart, et selon Norbert Elias, qui a été responsable de son décès précoce, bah, c'était qu'il ne voulait pas de ce système, il se considérait humilié par tous ces nobles qui le traitaient malgré tout comme un domestique. Domestique de luxe, mais domestique quand même. Et toute sa vie, il a essayé de se libérer de la tutelle de ses protecteurs, qui étaient aussi ses employeurs, pour essayer de devenir maître de sa création. Alors, notamment, il était employé comme maître de chapelle, c'est-à-dire qu'il était employé dans une cour pour produire de la musique à la commande, avec son employeur qui décidait du thème de l'opéra, par exemple, qui décidait d'un certain nombre de choses, qui décidait du livret, qui passait commande au compositeur pour qu'il livre un opéra qui serait joué pour ses courtisans. Ce musicien, en l'occurrence Mozart, mais tous ses collègues à la même époque et antérieurement, devaient aussi jouer seul avec l'orchestre de la cour. Quand on l'exigeait de lui, il devait fournir toutes les créations qu'on lui demandait pour les différentes cérémonies ou fêtes de la cour. Alors, c'est un système qui a permis à de nombreux musiciens de produire des œuvres majeures. Mais il était devenu insupportable à Mozart, qui voulait décider de lui-même du contenu de ses œuvres. Et il est fréquemment entré en conflit avec ses employeurs parce que il rendait ses œuvres en retard, il avait d'autres occupations qui étaient davantage prioritaires, il privilégiait ses propres créations, et donc en général ça faisait des conflits, il lui arrivait de se faire virer ou tout au moins de démissionner plus ou moins à l'amiable. Et il a essayé de s'émanciper de cette tutelle en organisant des concerts où il jouerait ses œuvres pour son bénéfice. Et il essayait aussi de lancer des souscriptions pour l'édition de ses partitions. Mais ça a été un échec, et donc ça l'a conduit à la pauvreté et finalement à une mort précoce. C'est-à-dire que le monde de la musique n'était pas encore prêt pour accueillir le rôle du musicien tel que le concevait Mozart. Alors, ce rôle de musicien, c'est aussi un rôle qui prévoit une place pour le nom du musicien. Là, les musiciens, même s'ils sont réputés, si on les emploie pour leur réputation, si on les sélectionne, sont dans une certaine mesure interchangeables. C'est-à-dire que c'est aussi la question, on repère ça dans d'autres domaines de l'art, la signature du tableau, c'est quelque chose qui vient relativement tard. Donc, ce rôle et cette figure de musicien autonome, qui est libéré de la tutelle de ses employeurs, de ses mécènes, n'est pas encore possible à la fin du XVIIIe siècle. En revanche, quelques années plus tard, c'est quelque chose qui est devenu possible sous l'effet de transformations à la fois politiques et économiques. Et notamment après les guerres napoléoniennes, beaucoup de princes ont été ruinés, les états ecclésiastiques ont été sécularisés, donc les postes de maître de chapelle sont plus rares. Par contre, ce qui se développe, évidemment, avec l'émergence d'une nouvelle classe sociale qui est la bourgeoisie, eh bien, c'est une posture, un rôle de musicien bourgeois, qui joue pour un public de bourgeois qui paye pour assister à des concerts. Et les concerts, ça exige aussi un nouveau rôle, qui devient en tout cas, qui préexistait, mais qui devient davantage spécifique et important, c'est celui du chef d'orchestre. Alors, on a également un public bourgeois qui achète des partitions, donc il y a besoin d'éditeurs qui payent des musiciens pour fournir des partitions qui sont, certaines partitions se vendent bien, ça assure des revenus à l'éditeur et aux musiciens. Et puis ce public bourgeois aussi, féru de musique, prend des leçons auprès de musiciens réputés. Donc on a aussi, c'est quelque chose de significatif, moins de transmission familiale de la musique, ce qui était le cas de Mozart, enfant de musicien qui devient musicien, mais davantage le rôle des institutions, comme les écoles de musique, les conservatoires, etc. Et on assiste à davantage d'individualisation. Le musicien, il a un nom et un prestige qui est attaché à son nom. Un talent singulier avec quelque chose de l'ordre d'une économie de la renommée. C'est-à-dire que si on est renommé, on gagne plus, parce qu'on a davantage d'opportunités de vendre ses partitions, de donner des cours de musique et de diriger des orchestres dans des concerts. Alors, quelqu'un qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est Beethoven. Je redonne ses dates, qui est né en 1770 et mort en 1827, parce que lui, il est dans une période de transition, il profite des deux systèmes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des mécènes qui le prennent sous leur protection et qui financent, subventionnent ses œuvres. Et il a aussi un public de concert, un public bourgeois, des gens qui achètent ses partitions. Donc il peut négocier avec les éditeurs, il peut imposer, on a des éléments dans la correspondance de Beethoven où il dit, mais de toute façon, maintenant, c'est moi qui fixe mon prix auprès des éditeurs et ils l'acceptent. Bon. Donc lui, c'est un véritable entrepreneur en musique. Il est parvenu à combiner plusieurs sources de revenus, à la fois celle des mécènes de l'ancien système et celle du nouveau système de la vente des partitions et des billets d'entrée à ses concerts. Pour ça, je renvoie à l'article qui est aussi en bibliographie de Pierre Bourdieu, bref impromptu sur Beethoven, artiste-entrepreneur, qui éclaire bien cette période de transition. Alors, donc, on va revenir quand même enfin à Richard Wagner. Lorsqu'il fait son apparition dans le champ musical européen du début de la première moitié du XIXe siècle, cette transformation s'est poursuivie. L'artiste dépend essentiellement du public des spectacles, qui doivent donc attirer du monde pour être rentable. Et il doit donc chercher un poste de chef d'orchestre dans une institution de musique. Et surtout, il est une personne singulière, il doit rechercher le renom, la renommée, désormais, la prospérité du musicien, ça dépend de cela. Donc avec, je dirais, Elias sur Mozart et Bourdieu sur Beethoven, on a une espèce de guide comparatif pour voir comment Wagner se situe par rapport à ses deux prestigieux prédécesseurs. Et puis également, avec la démarche de Norbert Elias, on a quelques outils pour comprendre comment on devient Richard Wagner. Que Elias nous décrit comment on devient Wolfgang Amadeus Mozart. Alors, Richard Wagner, il est né le 22 mai 1813 à Leipzig, en pleine guerre napoléonienne. C'est le 9e et dernier enfant de ses parents. Sa mère s'appelle Johanna Patz. C'est une fille de boulanger, mais qui a été élevée dans un pensionnat très, très huppé de Leipzig, où elle a acquis des appétences très cultivées. Alors, il y a une légende qui court, je ne sais pas si elle est fondée ou pas, comme quoi ça aurait été la fille illégitime du frère du grand-duc de Saxe-Weimar, qui aurait veillé sur son éducation. C'est-à-dire qu'elle aurait eu un enfant illégitime d'un noble qui... Ce qui expliquerait que, par rapport à des origines modestes, fille de boulanger, elle ait eu accès à une culture assez exceptionnelle. Alors, le père du petit Richard, c'est Friedrich Wagner, qui est secrétaire de police, en gros qui est greffier. C'est aussi un témoignage des transformations sociales de l'époque, c'est-à-dire qu'une administration étatique se constitue qui a besoin de personnes cultivées pour occuper des postes, cultivées au sens qui savent écrire, qui ont la maîtrise d'un certain nombre de savoirs scolaires. Alors, donc, Wagner n'est pas né dans un milieu de musiciens comme Mozart, mais il est né dans un milieu d'artistes amateurs, on va dire. C'est-à-dire que son père a un boulot donc de greffier, mais il dispose d'un capital culturel. Il est aussi issu d'une lignée d'instituteurs et de sacristains, ainsi que d'organistes. Donc, des gens qui sont d'une certaine manière musiciens de cour, mais plutôt modeste, mais de deuxième ou de troisième rang. Son oncle Adolphe Wagner, le frère de son père, c'est un poète et traducteur de poètes romantiques qui aura une certaine influence sur lui. Et puis on peut remarquer que ses frères et sœurs, tout au moins ceux qui sont pas morts en bas âge, auront des carrières artistiques. Il y aura un certain nombre de chanteurs, d'actrices, pour des sœurs qui vont pas mener une carrière d'actrice, d'artiste elles-mêmes, elles seront mariées à des artistes ou à des gens qui sont dans le monde de la culture. Donc, on est devant une configuration familiale où l'art, et spécialement la musique, est important. Et donc, dès sa petite enfance, le petit Richard va baigner dans un univers artistique où il sera comme un poisson dans l'eau. Donc on voit déjà de manière très classique le rôle de la socialisation primaire, la socialisation familiale comme un déterminant de la carrière future. Alors, le père de Richard meurt en novembre 1813, il est âgé seulement de quelques mois. Et donc, c'est un ami de la famille, Ludwig Geyer, qui prend en charge toute la famille. Alors, le terme ami de la famille est un peu ambigu, parce qu'il était surtout ami de la mère de Wagner. Il va se marier l'année suivante avec elle, au point que il y a des interrogations et que Richard s'est aussi posé comme question de savoir si Geyer n'était pas en fait son père biologique. Avec beaucoup d'interrogations qui vont pas mal le travailler. Un point aussi important, c'est que Geyer était juif et on va parfois rapporter l'antisémitisme de Wagner à cette inquiétude sur qui était son véritable père. Hein. Néanmoins, il semble que le petit Richard lui était très attaché. Geyer était acteur et il entretenait des relations mondaines avec différents artistes, peintres, poètes, musiciens, et notamment le musicien Karl Maria von Weber, que Richard va pouvoir fréquenter dans sa jeunesse. Alors, son père adoptif, donc son beau-père, meurt lui aussi prématurément en 1821. Donc une nouvelle fois, c'est le père adoptif qui meurt après le père biologique. Donc c'est aussi les inquiétudes sur la paternité, c'est quelque chose qui, sans faire de la psychanalyse de bazar, est un petit peu structurant chez Richard Wagner. On le verra quand on évoquera une de ses œuvres, qui est Siegfried. Alors, les études de Richard n'ont rien de remarquable, c'est pas un enfant prodige comme Mozart ou Liszt, mais vers 11 ans, il décide, au grand désespoir de sa mère, de devenir compositeur. Il s'intéresse à la philosophie, mais sans parvenir pour la littérature, mais il n'arrive pas à se concentrer sur une discipline. Alors, j'y reviendrai dans une prochaine séance, mais Nietzsche dira de lui que c'est un dilettante. Et c'est pas faux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va voir un peu partout dans toutes les disciplines sans véritablement se fixer sur une. Hein. Il va se fixer sur la musique, mais sur le théâtre, mais il s'intéresse aussi à la philosophie, à la religion, à tout ça. Hein. Et cette volonté d'articuler différentes disciplines, c'est aussi quelque chose qui va se retrouver dans sa conception de l'opéra. Donc il se passionne aussi pendant ses années de formation pour la littérature classique, pour les mythes grecs, mais aussi pour l'histoire antique, pour les contes et légendes du Moyen-Âge. Ce qui n'est pas totalement original, on est en plein romantisme, première moitié du 19e siècle, hein, donc il baigne là-dedans, il écrit des pièces de théâtre, des poèmes, il commence à composer, il sèche les cours pour lire des auteurs romantiques, il étudie très en profondeur les partitions de Beethoven, qui est aussi une grande influence musicale pour lui. Lorsqu'il approche de la vingtaine, il commence à proposer ses propres premières créations musicales, qui sont plutôt des bides, des échecs cuisants. Donc il s'inscrit à la section de musique de l'université de Leipzig pour se perfectionner. C'est pas un élève brillant de ce qu'on retient de sa scolarité, tout notamment parce que c'est pas un très bon interprète, hein, et ça toute sa vie il le restera, c'est pas un virtuose. Il est étudiant, donc il a le mode de vie des étudiants de l'époque, il boit beaucoup, il fréquente les bordels, etc. Aussi il se bat en duel, enfin il cherche à se battre en duel, mais parce que ça fait partie de la construction du personnage de l'étudiant viril, et c'est pour l'anecdote, mais il a des problèmes, c'est-à-dire que les gens avec qui il doit se battre en duel meurent ou disparaissent juste avant le duel, c'est-à-dire que pour le premier duel, le gars était quand même un forcené, il meurt dans un autre duel avant celui qu'il doit avoir avec Wagner, donc il est embêté. Il y en a d'autres qui s'enfuient pour échapper à leurs créanciers, donc il a un petit problème avec ça. Bon, c'est pour l'anecdote, mais son travail musical commence à porter ses fruits, il progresse, ses premières œuvres sont jouées et reçoivent un accueil assez favorable. Il bénéficie également du fait, c'est l'effet réseau, c'est-à-dire que ses frères et sœurs aînés sont déjà dans le monde de la musique, hein, et donc peuvent l'introduire auprès de musiciens. Et cette formation porte ses fruits. En 1833, il est nommé chef des chœurs au théâtre de Wurtzbourg. C'est une petite ville, c'est un poste peu prestigieux, mais ça correspond donc à ce statut de musicien bourgeois qui est là pour travailler dans une institution publique. Hein, il n'est pas attaché à une cour particulière. Et il débute la composition de son premier opéra, qui s'appelle Les Fées, sur un thème moyenâgeux. Et en fait, l'opéra est refusé et il ne sera jamais joué de son vivant. Hein, la première représentation aura lieu en 1888 et lui-même le reniera assez vite. Il le reniera assez vite parce que son ambition, dès ce moment, c'est de produire une conception, c'est de produire un opéra véritablement allemand, alors que les définitions dominantes de l'opéra sont françaises et italiennes. Hein. Alors, c'est intéressant de voir ça. En regard de ce que nous dit Pierre Bourdieu du champ artistique, c'est-à-dire que pour entrer dans le champ artistique et s'y faire reconnaître, eh ben, le meilleur moyen, c'est d'opérer une rupture. C'est de faire date. Et un des meilleurs moyens d'instaurer une rupture dans l'art, c'est de faire scandale. Hein. Et ceux qui ont le mieux réussi ça, c'est les surréalistes, par exemple. Hein. C'est l'idée de l'avant-garde esthétique, qui va rompre avec l'art conventionnel, l'art consacré, par la défense et l'imposition d'une nouvelle définition de l'art. Et dans le domaine qui est celui de Wagner, où il entend s'inscrire, celui de l'opéra, ça veut dire rompre avec l'opéra, de type italien ou français. Donc on repère quand même quelqu'un qui intègre très bien le fonctionnement du chant. Hein, et comment ça fonctionne et comment il faut s'y prendre pour réussir dans ce champ artistique. Les années suivantes, il poursuit sa carrière en occupant différents postes de directeur musical dans des institutions municipales. Il mène grand train, il contracte déjà pas mal de dettes. Il écrit un opéra inspiré de Shakespeare qui s'appelle La Défense d'Aimer, qui sera créé en 1836, mais qui n'est pas tellement, qui est plutôt un échec. Donc il est déjà en situation économique très difficile. Il se marie la même année, donc 1836, à la jeune première de la troupe du théâtre dont il dirige l'orchestre, une dame qui s'appelle Mina Planer, qui est déjà mère d'un enfant naturel, avec qui il va rester marié pendant 30 ans dans une relation très orageuse, hein, avec des infidélités, des abandons du domicile conjugal des deux côtés. Il part à Riga, alors à l'époque c'est en Russie, aujourd'hui c'est en Lettonie, où il est là toujours embauché pour diriger l'orchestre du théâtre de la ville, et il commence à écrire son opéra Rienzi. Alors, je vais essayer de brièvement de présenter les opéras au fur et à mesure de leur création. Hein. Ça se passe dans la Rome du Moyen-Âge, et c'est l'histoire de Rienzi, qui est un jeune tribun issu du peuple, qui mène une révolution, qui prend ensuite le pouvoir, en tentant de redonner à Rome sa splendeur d'antan. Mais en fait, il devient lui-même un despote, et il est victime d'une révolution qu'il dépose, quoi. Et donc il meurt dans l'incendie du Capitole et dans d'atroces souffrances. Alors la légende, l'idée que Hitler aurait vu Rienzi dans sa jeunesse et ça l'aurait beaucoup marqué, qu'il se serait identifié au personnage principal, avec l'idée que lui aussi se ferait leader, héros d'un peuple qu'il mènerait au triomphe. Bon, faut se méfier un peu des reconstructions a priori, je sais pas, je connais pas suffisamment la biographie d'Hitler pour savoir si c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui courent dans les biographies de Wagner. Mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de pas mettre en rapport l'histoire rapportée dans Rienzi et puis le destin du Reich. Donc, Rienzi s'est créé en 1842 à Dresde. Le problème, c'est que c'est tellement long. Il faut séparer l'œuvre en deux représentations, puis ça fait des embrouilles avec le public qui ne veut payer qu'un seul billet, alors qu'on lui dit, ben non, il faut payer pour les deux soirées. Bon. Alors, il perd son poste à Riga, et il veut aller à Paris, parce que malgré tout, l'opéra parisien reste dominant. Alors, il quitte la Russie clandestinement pour ne pas ameuter ses créanciers. Alors, il embarque dans un voilier qui doit, lui et sa femme, les mener en France, via Copenhague et Londres. Le voilier est en assez mauvais état et il subit une tempête dantesque de plusieurs jours, où vraiment il risque le naufrage à plusieurs reprises. Alors, c'est une expérience assez traumatisante, mais qui va l'inspirer beaucoup pour son prochain opéra, Le vaisseau fantôme. Alors, le couple reste quelque temps à Londres, ils arrivent en France où Richard Wagner rencontre celui qui est le plus renommé des auteurs d'opéra, qui est Meyerbeer, qui accueille Wagner plutôt avec bienveillance, qui lui promet de l'appuyer dans le monde de l'opéra parisien. Mais bon, en attendant qu'il conquiert le public parisien, il s'installe avec sa femme à Paris, où il fait des petits travaux musicaux, comme des arrangements pour survivre. Il y a un théâtre qui devait jouer La Défense d'Aimer, mais il fait faillite. Alors, on lui est prêt à lui acheter l'esquisse du livret du vaisseau fantôme, mais pour en confier la finalisation à d'autres librettistes. Donc ça lui pose un peu problème parce qu'il veut rester maître de son œuvre et c'est des choses qui se font à l'époque. Il a une bonne idée, mais on n'a pas forcément confiance en lui pour rédiger le livret, donc on confie le boulot à d'autres. Donc malgré tout, vu qu'il a besoin d'argent, il vend l'idée, l'histoire, hein, le livret. Finalement, ceux qui devaient se charger de rédiger la version à eux ne le font pas. Donc lui, il continue à travailler dans son coin. À Paris, il fait une rencontre importante qui est celle de Franz Liszt, qui à l'époque est une star du piano, dont les places de concert se vendent très cher. C'est un petit peu le début du star system. Mais c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la personnalisation de l'artiste. L'interprète, en tout cas, enfin l'interprète, le compositeur, ça devient des singularités. Et c'est la renommée de l'artiste qui fait son succès. Et notamment, Franz Liszt a une relation avec une comtesse française dont il a une fille, Cosima, dont je serai amené à reparler plus tard. Et c'est le début d'une longue amitié entre les deux musiciens, et Liszt sera toujours d'un grand soutien pour Wagner. Il repart pour l'Allemagne en 1842, Rienzi est produit donc à Dresde. C'est un grand succès, mais très rapidement il est très critique à l'égard de cette œuvre qui reste, selon lui, trop conforme au canon de l'opéra, avec lesquels donc il veut rompre. Alors, en fait, ces trois opéras que j'ai évoqués, l'effet, La Défense d'Aimer et Rienzi, très vite ils seront rejetés par leur auteur et ils sont assez rarement joués. En fait, la vraie maturité de Wagner, ça vient avec le vaisseau fantôme, dont il a poursuivi la composition et qui est créé grâce au succès de Rienzi en 1843. Alors, quelques mots sur le vaisseau fantôme, ça s'inspire de légendes nordiques qui racontent l'histoire d'un marin hollandais qui a défié les éléments, qui a défié Dieu d'une certaine manière, donc qui a subi une malédiction. Donc il est condamné à voguer pour l'éternité, et tous les 7 ans, on l'autorise, la volonté divine l'autorise à accoster quelque part, et s'il trouve une femme qui est prête à se sacrifier par amour pour lui, une femme prête à l'aimer de manière absolue, la malédiction est levée. Et donc cette femme, il va en trouver une, elle s'appelle Senta, elle est prise de pitié pour lui, et à la fin de l'opéra, elle se jette dans la mer du haut d'une falaise pour sa rédemption et pour le rejoindre dans l'éternité. Alors c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est cette manie des femmes à se sacrifier pour des hommes. On le retrouve pas que chez Wagner, si vous regardez Lars von Trier, Breaking the Wave, c'est ça, hein, c'est... Alors, le succès est moindre que pour Rienzi, mais il obtient, c'est une survivance de l'ancien système qui continue quand même à perdurer, il obtient un poste de maître de chapelle auprès du roi de Saxe, qui a bien aimé l'opéra. Donc, il mène une vie assez confortable, à diriger l'orchestre qu'on lui a confié, Il lit beaucoup de littérature ancienne, les contes et légendes du Moyen-Âge, donc il continue. Il a une petite cour d'admirateurs autour de lui, et notamment un chef d'orchestre qui s'appelle Hans von Bülow, qui va prochainement se marier avec la fille de Franz Liszt, Cosima, donc, que j'ai évoquée un instant. Alors, cet environnement favorable lui permet de préparer une nouvelle œuvre, Tannhäuser. Alors, là aussi, quelques mots sur l'histoire. Vraiment, je caricature hein, les histoires, mais vu que j'en reparlerai dans les prochaines séances, c'est utile. Tannhäuser, c'est une sorte de barde qui est captif volontaire de Vénus, avec qui il séjourne sur le Vénusberg, c'est-à-dire le monde Vénus, où il passe son temps à faire ce qu'on fait d'habitude sur le monde Vénus. Alors, c'était le titre initial de l'opéra, et on lui a déconseillé en disant ça va un peu susciter les blagues de mauvais goût. Donc il l'a appelé Tannhäuser. Donc Tannhäuser, le personnage, se lasse, il reprend sa liberté, il croise des pèlerins qui reviennent de Rome, et donc il est pris de remords, et il se jure de ne plus vanter que l'amour courtois, l'amour spirituel, et il est incité à le faire par Élisabeth, qui est une jeune femme amoureuse de lui. Et Tannhäuser, revenu chez les Urbains, ayant quitté Vénus, participe avec une série de chevaliers à un concours de chant, où il s'agit de chanter l'amour, mais il fait une rechute, c'est-à-dire qu'il doit chanter l'amour courtois, et puis il se remet à chanter l'amour sensuel. Donc il manque de se faire tuer, mais grâce à l'intercession d'Élisabeth, il part à Rome demander le pardon du pape. Donc Élisabeth, à la fin, meurt alors qu'elle prie pour lui, une nouvelle fois, des femmes qui meurent pour la rédemption des hommes. Voilà, et puis lui meurt à son tour pendant qu'il y a un miracle qui s'accomplit, c'est-à-dire que le bâton du pape qui lui a refusé le pardon refleurit, ce qui est le signe que, malgré tout, Tannhäuser est pardonné par Dieu. L'accueil du public est mitigé, il est obligé de revoir sa pièce très rapidement, et il la considérera jamais comme définitivement achevée. Bon, en plus il y a une polémique sur le sens du rôle laissé au pape dans cette histoire-là. Aussi pour l'anecdote, un peu plus tard, Tannhäuser sera présenté à Paris, et ça sera d'abord un succès, puis après il y aura un gros scandale pendant les représentations, parce que dans les opéras joués à Paris à l'époque, il est de tradition qu'il y ait un ballet au début du deuxième acte. Alors, ça répond aux attentes des aristocrates du Jockey Club qui dînent avant. Donc, ils loupent le premier acte. Et puis, ils veulent qu'il y ait un ballet au début du deuxième acte parce que ce sont leurs maîtresses qui sont en train de danser dans le ballet. Donc, ils veulent les voir. Bon. Et Wagner a prévu un ballet, mais au début du premier acte, où il s'agit de... En plus, le ballet, sans doute, vaut la peine parce que c'est ce qui se passe sur le monde Vénus, quoi. Donc c'est un peu olé olé, mais il refuse de le déplacer, et donc il y a une cabale qui contre lui, on perturbe les représentations, et à la troisième représentation, il arrête parce que à chaque fois il y a des sifflets, il y a un boucan énorme. Voilà, fin de la parenthèse. Ces représentations seront malgré tout défendues pas par n'importe qui, par Charles Baudelaire, qui féru de musique wagnérienne. Donc je reviens à lui en 1848, donc quand il est maître de chapelle au service d'un noble, et il veut rénover l'administration de la musique pour favoriser le développement d'un théâtre national allemand pour le royaume de Saxe. Il veut aussi être augmenté, donc il se fait des jaloux et des ennemis auprès du monarque, et puis il commence à se mêler de politique en fréquentant des révolutionnaires libéraux, hein. Et c'est là qu'il rencontre donc l'anarchiste russe Michel Bakounine, donc je donne les dates, 1814 et mort en 1876, avec lequel il sympathise, ont des grandes discussions. Et au mois de mai 1848, ou 49 plutôt, je pense, le roi refuse de promulguer une constitution d'inspiration libérale, donc il y a une émeute qui éclate, une insurrection, qui est réprimé dans le sang, il y a des barricades qui se dressent, le peuple prend les armes contre l'autorité du roi, il y a un gouvernement provisoire qui se met en place, et donc Wagner est à fond dans le mouvement, hein, il rédige et il distribue des tracts révolutionnaires, etc. La révolte est vaincue, l'insurrection est vaincue, donc il prend la fuite, il manque de se faire arrêter, il se réfugie à Weimar, où il est accueilli par Liszt, mais il doit très rapidement fuir pour la Suisse, où déjà il y a un statut de réfugié politique qui existe. Et donc il s'installe à Zurich, où il vit de la générosité de Liszt en dirigeant à l'occasion des orchestres, hein, mais il n'a plus de position professionnelle stable. Il lit beaucoup, notamment Schopenhauer, hein, Le monde comme volonté et comme représentation. Il lit aussi L'origine du christianisme, du philosophe Ludwig Feuerbach, qui a aussi beaucoup inspiré Karl Marx. Hein, on connaît les thèses sur Feuerbach de Marx, dont je profite de l'occasion pour citer la dernière. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. Je pense que c'est encore quelque chose d'intéressant pour l'université populaire. Je reviens à Feuerbach. C'est un philosophe critique de la religion qui développe l'idée que ce n'est pas Dieu qui a créé les hommes, mais les hommes qui, dans l'amour de Dieu, expriment l'amour de l'humanité. Et il en tire la conclusion que le salut de l'humanité ne passe pas dans l'attente d'un paradis illusoire, mais dans le bonheur sur terre, via notamment la satisfaction des sens. Donc à Zurich, Wagner donc lit Feuerbach, ça l'intéresse pas mal. Il rédige des essais où il essaye de formaliser sa pensée de la musique, comme l'art et la révolution. Il exprime déjà toujours des idées progressistes, vaguement socialisantes, tout en proclamant qu'un nouveau style d'opéra sera l'instrument d'une régénération sociale. Il retourne à Paris, fréquente les cercles républicains, et puis il s'engage dans la préparation de plusieurs œuvres dont certaines ne verront pas jamais le jour, comme un opéra sur le Christ, mais d'autres qui serviront la base au ce qu'on appelle le Ring, donc l'anneau du Nibelung, qui sera créé beaucoup plus tardivement et dont je parlerai un peu plus tard. Alors, en France aussi, il est accueilli à Bordeaux par la famille d'une de ses admiratrices qui décide de lui verser une rente, disant c'est dommage qu'un génie pareil ne puisse pas produire. Donc Mina, avec qui il est toujours marié, le prend mal. Donc ce sont il y a un côté aussi très vaudevillesque, hein, dans la biographie de Wagner. Finalement, il se réconcilie avec elle et retourne à Zurich, donc avec elle, mais aussi avec la rente, qui quand même arrange bien les choses. En 1850, il rédige son essai « Le judaïsme dans la musique », donc qui est un texte antisémite, hein, où il développe l'idée que les juifs sont inaptes à comprendre l'art véritable, qu'ils ne sont capables que de le singer superficiellement. Alors, il vise Félix Mendelssohn, qui est aussi un concurrent dans le champ de la musique de l'époque, et Meyerbeer, à l'égard duquel il nourrit une forte ambivalence, hein, parce que Meyerbeer, quand il l'a accueilli à Paris, l'a aidé, l'a plutôt soutenu, mais c'est aussi une forme d'art contre lequel il doit se construire, hein, se construire en s'opposant à l'art qui existe, à l'opéra qui existe, et ce qui est dominant, c'est l'opéra de Meyerbeer. Alors, c'est un antisémitisme qui à la fois est courant à l'époque, hein, et Wagner se signale pas par une grande originalité dans ses textes. Pour autant, ça suscite légitimement une certaine consternation et ça contribue à le stigmatiser. Il est antisémite et il le restera dans ses positions très durablement, parce que le même essai, il le refera paraître en 1869, sans pratiquement rien changer. Donc c'est quand même une hostilité très, très fermement ancrée chez lui, et dont on trouve aussi des traces dans l'œuvre. 1850, c'est l'année de la création d'un nouvel opéra qui est Lohengrin, qui est créé à Weimar, qui est dirigé par Liszt, mais Wagner ne peut pas assister à la création de son opéra parce qu'il est toujours interdit de séjour dans la région. Alors, Lohengrin, c'est l'histoire d'Elsa, héritière du Brabant, qui est suspectée au sein de la cour du roi Henri Loiseleur, donc ça se passe au Moyen-Âge, hein. d'avoir assassiné son petit frère, qui est l'héritier du trône. Et elle a du mal à se défendre, et il n'y a personne pour la défendre, si ce n'est un personnage qu'elle a vu en rêve, qui arrive dans une nacelle tirée par un cygne, et qui dit, parce que le seul moyen de la défendre, c'est de se battre en duel contre son principal accusateur, donc qui s'appelle Telramund. Alors, cet inconnu dit, voilà, je vais défendre ta cause dans un duel. Il gagne le duel, sans tuer Telramund, et récompense supplémentaire, il gagne aussi la main d'Elsa, mais en lui faisant promettre que jamais elle ne lui demande son nom, ni son origine. Et ce qu'elle accepte... bon. Mais le souci, c'est que la femme de Telramund, qui s'appelle Ortrud, qui est un peu sorcière, manigance contre cet inconnu et convainc Elsa de lui demander son nom, ce qu'elle fait le jour de leurs noces. Donc, il est une nouvelle fois vérifié que les femmes sont curieuses et provoquent des catastrophes. En tout cas, c'est un thème récurrent. Et donc, l'inconnu répond... Il est consterné, mais il répond, donc il s'appelle Lohengrin, il est le fils de Parsifal, c'est un chevalier du Graal, et il disparaît, vu que voilà, l'union est rompue, alors que le cygne se transforme, se métamorphose en Gottfried, donc le frère d'Elsa, qui avait disparu, et donc qui pourra régner. Donc c'est un très grand succès, qui est rapidement joué dans d'autres villes. Fort de sa réputation, donc Wagner se voit proposer un poste à Zurich, mais il trouve que c'est pas assez prestigieux pour lui, et il fait plutôt recruter Von Bülow, qui est donc comme chef d'orchestre chargé de jouer ses œuvres, entre autres, ce qui l'amène à fréquenter un peu plus fréquemment l'épouse de Von Bülow, donc Cosima, la fille de Liszt. Alors, il commence à élaborer le projet du ring, hein, il poursuit dans sa réflexion avec de premières ébauches des deux premiers opéras de ce cycle, hein, c'est un cycle de quatre opéras, donc les deux premières journées, c'est l'Or du Rhin et la Valkyrie. Dans le même temps, il commence à se dire aussi qu'il n'existe pas de théâtre à même de recevoir correctement l'œuvre qu'il envisage, donc il commence à réfléchir à un lieu qui serait spécialement dédié à ces opéras. À Zurich également, il fréquente un jeune couple, les Wessendonck, dont le mari est un riche grossiste en soierie, et qui a une très jeune et jolie femme, qui s'appelle Mathilde, qui est une de ses admiratrices. Donc le couple Wessendonck finance ses concerts, contribue à ses revenus, mais ça suffit pas, parce qu'il vit toujours au-dessus de ses moyens, et les Wessendonck doivent éponger les dettes de leur ami, qui a un mode de vie, on va dire, légèrement parasitaire. La situation est d'autant plus délicate que il se fait financer des œuvres par le mari. Oui, il se fait financer par le mari des œuvres qu'il dédie à l'épouse, avec qui il entretient une relation dont on ne sait pas si elle est restée totalement platonique, et il en reste des pièces chantées qui sont connues sous le nom de Wessendonck-Lieder, qui sont donc la mise en musique de poèmes de Mathilde. Alors, cette ambiance de vaudeville, quand même, l'amène à écrire un vaudeville lui-même, en l'occurrence le livret de Tristan et Isolde. Ouais, c'est un peu profanateur de dire que c'est un vaudeville, mais quand même. Ça raconte l'histoire de Tristan, qui est le neveu du roi de Cornouailles, Marc, est parti en Irlande pour chercher une épouse pour son oncle, qui est veuf. Donc, cette épouse, ça sera Isolde, il tue le fiancé d'Isolde, qu'il prend mal. Et donc, pendant la traversée, hein, c'est à ce moment-là que commence l'opéra, où il ramène Isolde pour son oncle, elle veut se venger, elle veut faire boire un poison à Tristan et se suicider après, mais suite à une malencontreuse inversion, c'est un filtre d'amour qu'ils boivent tous les deux. Donc, Isolde est mariée au roi Marc, mais elle est amoureuse de Tristan, et réciproquement... ils se rencontrent une nuit dans le jardin du château, mais ils sont découverts, et donc Tristan s'enfuit après avoir été blessé par son rival, Mélotte. Il s'exile dans son château en Bretagne, en sachant que seule Isolde peut le guérir. Et elle arrive à la fin du troisième acte, mais c'est trop tard. Tristan meurt dans ses bras. Le roi Marc arrive pour pardonner, mais il ne peut qu'assister à la mort d'Isolde, qui est donc un des plus beaux morceaux composés par Richard Wagner, qui est un morceau très connu, donc la mort d'Isolde. Alors, il se lance dans la composition en 1857, mais l'œuvre ne sera créée qu'en 1865. Notamment, il a du mal à trouver des interprètes à la mesure de l'œuvre, parce qu'ils sont assez difficiles à chanter. Bon, dans ces années 1850-60, il voyage beaucoup. Il est invité à donner des représentations de ses œuvres. Bon, j'ai évoqué Tannhäuser en France, qui se passe pas très mal. Il dirige des orchestres. C'est aussi l'émergence de la figure du compositeur chef d'orchestre. Les deux fonctions dans un même homme. Il peut revenir en 1862 en Allemagne où les poursuites sont levées. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de système de droit d'auteur. L'idée d'un pourcentage sur les recettes commence à peine à émerger. Donc, les concerts qu'il donne ne sont pas toujours rémunérateurs. L'édition des œuvres, ça peut rapporter de l'argent. Le problème, c'est que Wagner a la fâcheuse tendance de vendre à des éditeurs des œuvres pas encore composées. Donc, il reçoit des avances, mais il a un peu du mal à honorer ses engagements. Et donc, des fois, on lui réclamait le remboursement de l'argent qu'il avait perçu, il faudrait quand même produire les œuvres annoncées. Donc, il est poursuivi par les créanciers. Ses relations sont toujours très difficiles avec sa femme. C'est aussi à cette époque, début des années 1860, qu'il commence à rédiger le livret puis la musique des maîtres chanteurs de Nuremberg, donc qui sera un de ses opéras futurs, un des derniers. Alors, l'histoire, c'est celle d'un concours de chant qui est organisé par des artisans de Nuremberg, ça se passe au Moyen-Âge, et la récompense pour le gagnant du concours, c'est la main d'Eva, la fille d'un orfèvre. L'intrigue, c'est qu'il y a un jeune noble, qui s'appelle Walter, qui est amoureux d'elle, et qui veut participer au concours. Le problème, c'est qu'il ne fait pas partie de la confrérie des chanteurs, quoi. Donc il va finir par gagner, ça se termine bien, grâce à l'aide du cordonnier, qui est aussi un des maîtres chanteurs, qui s'appelle Hans Sachs. C'est le nom d'un véritable poète allemand du Moyen-Âge, dont Wagner fait une figure d'opéra. Alors, c'est une œuvre qui tranche avec ses autres opéras par son côté plutôt joyeux, qui est aussi une exaltation du génie artistique allemand. On est aussi dans une poussée de nationalisme germanique. C'est la construction de l'unité allemande qui est en train de se faire. Mais il n'en reste pas moins qu'en ce début des années 1860, l'avenir est bien noir. Mais tout d'un coup, et vraiment brutalement, les choses vont s'arranger. En mai 1864, parce que le nouveau et jeune roi de Bavière, Louis II, le fait convoquer à Munich pour lui donner les moyens de poursuivre son art sans souci matériel. Alors, Louis II, vous le savez si vous avez vu le film de Visconti, par exemple, Ludwig ou le crépuscule des dieux, était, on va dire, psychologiquement fragile, vivait dans une espèce de monde enchanté qui était celui des opéras de Wagner, qu'il a par exemple essayé de reconstituer dans ses châteaux, qui font le charme du tourisme bavarois. Donc il s'est abreuvé du même romantisme littéraire de Richard Wagner, mais en le prenant peut-être un peu plus au sérieux, en y croyant pratiquement, quoi. Et il adulait donc Richard Wagner, et donc dès leur première rencontre, Louis II éponge les dettes, lui offre un gîte proche de son château, dans lequel Richard Wagner s'empresse d'inviter von Bülow, plutôt sa femme. Sa femme arrive d'abord, et quand le mari arrive, il est déjà cocu. Alors, comme quand même son arrivée, il a quand même une réputation sulfureuse. Par rapport à son passé politique, il rédige un essai où il minimise son activité révolutionnaire passée afin de préserver quand même une chance inespérée de plus avoir de problèmes d'argent. Donc avec le soutien de Louis II, Tristan et Isolde est créé en 1865. Alors là aussi, il n'y a pas toujours y a peu de malchance, c'est un triomphe, mais les représentations doivent s'arrêter avec la mort subite de l'interprète de Tristan. J'avais dit qu'il avait eu du mal à trouver les interprètes. Et puis, les relations entre Wagner et Louis II sont de plus en plus contestées par la population et le gouvernement de Bavière, parce que c'est un peu les relations Wagner-Louis II, c'est un peu les relations, toutes proportions gardées, Liliane de Bettencourt, François-Marie Bannier. C'est-à-dire qu'ils pompent quand même pas mal de fric. Il essaye de jouer aussi son conseiller politique officieux. Dans le même temps, ça fait scandale parce que sa liaison avec Cosima est de notoriété publique. Il n'y a que Louis II qui ne veut pas y croire. Donc finalement, le gouvernement obtient son expulsion vers la Suisse en décembre 1865. Alors, ce qui est intéressant, bon, hormis l'aspect un peu grivois et de l'histoire, c'est qu'avec Louis II, on retrouve la logique du mécène qui paye un artiste à son service. Mais justement, ce système ne peut plus fonctionner. Hein, et c'est là que ça rentre en crise. C'est-à-dire que Louis II voudrait fonctionner comme du temps de Mozart, mais l'administration du royaume conteste. Hein, et le monarque, il est en fait décalé. C'est-à-dire qu'il veut jouer un jeu qui n'est plus possible parce que la définition de l'État et du rôle de monarque ont changé depuis l'époque de Mozart, par exemple. C'est plus possible de faire comme Louis XIV, de dire l'État c'est moi, parce que la personne du monarque et l'État se sont séparés. Hein. C'est quelque chose qui est très largement discuté dans le dernier livre de Pierre Bourdieu sur l'État, hein, qui est sorti récemment. Il y a un processus de dissociation entre l'État et le budget de l'État et la personne du roi et son budget personnel. Mais Louis II veut essayer de revenir à une logique où c'est lui qui décide, qui finance abondamment un artiste qui soit à son service. Avec quand même aussi cette nuance par rapport à l'ancien système type Mozart, c'est que Louis II ne considérait pas Wagner comme son domestique, il le considérait comme un génie qui l'adulait et donc il était prêt à... Non, c'est quand même là aussi un décalage par rapport à cette ancienne figure du maître de chapelle domestique d'un aristocrate. Alors, Mina, son épouse, meurt peu après, ce qui lui permet d'épouser Cosima, hein, qui finit par obliger Von Bülow à divorcer. Il faut dire que Wagner a déjà eu le temps de lui faire deux filles, hein, Isolde et Eva, et qu'il aura bientôt un fils, Siegfried, pour lequel il va composer le morceau Siegfried Idyll, qui reprend des motifs du Ring, sur lequel, donc cet opéra sur lequel, ce cycle d'opéra sur lequel il est en train de travailler. Alors, comme c'est un morceau de musique de chambre qui est très paisible, qui est assez différent de l'image qu'on se fait couramment de la musique de Wagner, je vais en passer. Je suis déjà très en retard sur l'horaire, mais ça me semble quand même impossible de parler d'un musicien sans passer un petit peu de sa musique. Mais. Voilà, c'est aussi pour montrer que, contrairement à ce que dit Woody Allen, c'est à force d'écouter du Wagner, on n'a pas forcément envie d'envahir la Pologne. Donc c'est un morceau très tendre et ça peut donner aussi envie d'embrasser des Polonais ou des Polonaises, selon. cruel d'arrêter, mais je suis très en retard et on aura d'autres occasions de passer de la musique. Hein. Je vais reprendre donc mon récit. On approche de la fin. Wagner est exilé en Suisse, près de Lucerne. C'est Louis II qui paye le loyer de la maison, toujours. Et là, il fréquente un jeune professeur de philologie allemand, qui lui aussi a été recruté à l'université de Bâle, qui est donc Nietzsche, qui admire beaucoup son œuvre, en tout cas à ce moment-là. Donc ça, je ne développe pas, on en discutera amplement la semaine prochaine. C'est des années à l'abri du besoin, pour la première fois. Pour autant, il a toujours des goûts de luxe et il mène grand train. Et ses professions de foi révolutionnaires et socialistes sont. Il les professe de moins en moins, et notamment sous l'influence de Cosima, qui est très nationaliste. 1870, c'est la guerre contre la France, qui est aussi très antisémite. Et donc c'est à ce moment-là, 1869, qu'il fait reparaître son essai sur le judaïsme, et ça fait à nouveau scandale. Liszt et Nietzsche le lui reprochent, mais il reste ferme dans ses convictions antisémites, d'autant qu'il fréquente un intellectuel antisémite français notoire, qui est Gobineau. Alors ce sont des années de création, parce qu'il reprend donc l'écriture du Ring, qui est donc pas un opéra, c'est la réunion de quatre opéras, hein, ou plus exactement un festival scénique en un prologue et trois journées. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la tétralogie, hein, quatre composantes, L'Or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux. Hein. Alors selon les chefs d'orchestre et les orchestres, ça dure entre 13 heures et plus de 16 heures, hein, au total. Heureusement, on joue les opéras en plusieurs journées. Alors, en réalité, les premières esquisses du projet, hein, je l'ai déjà signalé, ça date de 1848. C'est vers 1850 qu'il a une idée plus précise de ce qu'il veut créer avec cette légende de Siegfried, qui est une légende scandinave et germanique. Il rédige les livrets entre 1850 et 1852. Il achève la composition de L'Or du Rhin et de La Valkyrie du premier acte de Siegfried en 1856. Mais c'est seulement en 1869 qu'il va reprendre la composition. Donc, du deuxième acte de Siegfried. Donc, si vous voulez, à l'intérieur d'une même œuvre, il y a 12 ans qui séparent le premier et le deuxième acte. Hein, ce qui, si sa maîtrise musicale, il y a eu une maturation, donc il y a quand même un petit décalage musical entre les deux. Et puis, donc, le quatrième volet, Le Crépuscule des Dieux, sera achevé en 1874. Alors, un des problèmes que rencontre Wagner, c'est que quand Louis II a apporté son aide, il a, d'une certaine manière, acheté les œuvres. Et donc, Louis II a voulu faire jouer, et il l'a fait, il a fait jouer les opéras qui étaient déjà composés de manière indépendante à Munich, et Wagner ne voulait pas qu'on saucissonne son œuvre. Donc, il y a eu un peu un moment de froid, et donc Wagner a snobé les représentations, les premières représentations des premiers opéras du Ring. Alors, c'est très difficile de résumer cette œuvre. Je vais essayer de le faire. Donc, on est une nouvelle fois avec un problème de rédemption accompli par un héros, qui est donc Siegfried, qui va mettre un terme au règne originel des dieux, hein, des dieux païens. Alors, Siegfried, c'est le fils des amours incestueuses et adultérines de deux jumeaux, qui est Sigmund et Sieglind, qui sont les enfants du chef des dieux, du dieu dominant, qui est Wotan. Alors, Wotan s'est mis dans une embrouille, c'est-à-dire qu'il a fait construire un palais pour les dieux, pour lui et les autres dieux, qui s'appelle ce palais le Valhalla, et il a fait construire ce palais par des géants à qui il a promis en récompense, en paiement, sa belle-sœur, la déesse Freya, qui garantit aux dieux l'éternelle jeunesse en faisant pousser des pommes. Et Freya ne veut pas servir de monnaie d'échange aux géants, qui s'appellent Fasold et Fafner. Et donc au moment de payer, quand les géants viennent chercher leur rétribution, Wotan propose aux géants, plutôt que de leur donner Freya, de les payer avec l'or du Rhin, donc du fleuve, que le nain Alberich, vient de voler aux filles du Rhin, espèce de sirène qui veille sur l'or qui est au fond du fleuve. Et Alberich vient de voler l'or. Hein, c'est comme ça en fait que commence véritablement l'histoire. Parce que peut s'accaparer l'or du Rhin celui qui renonce à l'amour. Et il est un peu échaudé par les rebuffades des filles du Rhin qu'il a essayé de séduire, et donc il a fait ce renoncement. Donc il a récupéré l'or, et un autre nain, qui s'appelle Mime, a forgé avec cet or du Rhin un anneau au pouvoir magique. Donc Wotan, aidé par le dieu du feu, qui s'appelle Log, va lui-même voler l'anneau et l'or à Alberich, qu'il a volé aux filles du Rhin, et les géants acceptent d'être payés comme ça, mais le problème c'est qu'il y a une malédiction sur l'anneau, qui pèse sur l'anneau, et donc aussitôt que les deux géants ont récupéré l'or, il y en a un qui tue l'autre. Voilà, donc Fafner tue Fasold, et donc Fafner va ensuite se transformer en dragon pour dormir sur son or. Alors, Wotan voudrait quand même récupérer l'anneau. Mais il a un problème, c'est qu'il ne peut pas le faire lui-même, parce que c'est le dieu des contrats, c'est lui qui a inscrit les lois sur sa lance, et donc il ne peut pas lui-même transgresser les règles dont il est supposé être le protecteur. Et donc il a engendré Sigmund avec l'espoir qu'il soit un héros libre, détaché de cette exigence de respecter les lois, avec l'espoir qu'il récupère l'anneau. Mais le problème, c'est que donc Sigmund commet l'adultère et l'inceste avec sa sœur Sieglind, donc Wotan est obligé de le laisser tuer. Mais, vous suivez ? Sieglind est enceinte de son frère Sigmund. Elle va avoir un fils qui est donc Siegfried. Et Wotan a l'espoir que lui, il sera un héros libre qui pourra récupérer l'anneau. Et Mime, donc le nain qui a forgé l'anneau, fait le même plan, c'est-à-dire qu'il a élevé Siegfried dans une forêt. En espérant que quand il sera grand, il pourra récupérer l'anneau que détient toujours Fafner, le dragon. Donc Siegfried fait ça, il tue le dragon, il récupère l'anneau, il tue Mime aussi, et une fois qu'il a accompli tous ses exploits, il se dit qu'il se marierait bien, et donc un oiseau lui conseille d'aller réveiller Brunehild, qui est la Valkyrie. Alors une Valkyrie, c'est une vierge guerrière qui est là pour emporter les guerriers valeureux qui sont morts au combat dans le palais des dieux, donc le Valhalla. Mais donc Brunehild, cette Valkyrie, avait essayé de protéger Sigmund, et Wotan l'a puni. Et l'a puni au même sort que la Belle au bois dormant, c'est-à-dire que elle dort en attendant que son prince charmant vienne la réveiller. Donc Siegfried arrive sur le rocher où Brunehild est endormie. Il écarte Wotan qui essaye de l'empêcher. Il franchit le cercle de feu qui protège Brunehild. Il la réveille. Et le lendemain, après lui avoir donné l'anneau, il part sur le Rhin pour de nouvelles aventures. Et c'est là qu'il rencontre un frère et une sœur à nouveau, Gunther et Gudrun, et surtout Hagen, qui est le fils d'Alberich, qui veut toujours récupérer l'anneau. Et donc ce trio infernal lui fait oublier Brunehild, à qui il va dérober l'anneau, et donc elle le prend mal, elle s'estime trahie, et puis il l'emmène dans une partie de chasse où il se fait tuer, à la fin. Et Brunehild récupère l'anneau, elle le rend aux filles du Rhin. Elle se jette dans le bûcher où est en train de brûler, où a lieu la crémation du cadavre de Siegfried, pendant que l'incendie gagne le Valhalla et détruit les dieux, dont c'est ainsi le crépuscule. Donc voilà, je vous ai résumé en quelques minutes quelque chose qui tient sur une quinzaine d'heures d'opéra, donc j'espère que vous me pardonnerez les raccourcis. Mais on sera amené dans les prochaines séances à évoquer d'autres des aspects plus particuliers de de cette œuvre qui est extrêmement riche. Alors, évidemment, pour jouer une œuvre pareille, il faut une salle spéciale, et donc Richard Wagner, qui a de la suite dans les idées, relance son idée d'un théâtre spécialement adapté pour ses œuvres, et où on ne jouerait que ses œuvres. Donc il se décide pour la petite ville de Bayreuth. Donc il obtient le soutien de Louis II, il lance une souscription, il joue des concerts pour lever des fonds. La première pierre est posée le 22 mai 1872, donc le jour de son anniversaire. Le théâtre est construit, il est inauguré en 1876 avec la création du ring. Alors c'est un événement mondain avec tout le gratin aristocrate et grand bourgeois et les intellectuels et artistes de l'époque, et ça va le rester. Bon, tout n'est pas parfait, il reste un important déficit à combler, mais le festival est lancé et Richard Wagner peut passer à sa dernière œuvre, donc Parsifal, qui est inspirée du roman du Graal. Alors, une nouvelle fois, c'est un héros rédempteur qui parvient à régénérer le monde en récupérant la lance qui a blessé le Christ sur la croix, et que s'était approprié un personnage maléfique qui est Klingsor. Et Parsifal célèbre ensuite la cérémonie du Graal, donc là aussi le calice qui est supposé avoir recueilli le sang du Christ sur la croix. Une nouvelle fois, on a une femme qui est le personnage de Kundry qui meurt à la fin pour racheter ses péchés. Et donc toute l'histoire est structurée autour de l'opposition du monde du bien, la cour du Graal, et le monde maléfique de Klingsor. Alors, Parsifal est créé en 1882 à Bayreuth, et peu après, Wagner part à Venise où il meurt le 13 février 1883. Alors, quelques mots sur l'héritage et la gestion de l'entreprise Bayreuth, hein, qui est toujours aujourd'hui sous le contrôle de la famille Wagner. Alors, après sa mort, Cosima veille sur l'héritage avec une vigilance très conservatrice, jusqu'à ce que son fils Siegfried soit en âge de prendre la succession. Alors tous les deux meurent en 1930 et en fait c'est la femme de Siegfried, Winifred, qui gère l'affaire. Alors c'est une amie d'Hitler, c'est une nazie convaincue et donc elle va mettre le festival et l'œuvre de Wagner au service du régime. Alors, évidemment après la guerre on se pose la question de est-ce qu'on les autorise à reprendre le festival. Bon, elle est écartée de la gestion et finalement le festival est autorisé à reprendre. Et la gestion est confiée aux deux petits-fils de Richard Wagner, donc Wieland et Wolfgang, qui vont régénérer l'œuvre en renouvelant les mises en scène, notamment en les dépouillant de leur arrière-fond mythologique. Et donc le festival est toujours aussi prospère, c'est toujours un événement ultramondain, avec, d'après les statistiques que j'ai pu trouver, une place pour 8 demandes et entre 5 et 10 ans d'attente. Et des mises en scène qui font éventuellement scandale, comme je serai amené à en évoquer certaines. Voilà, donc je suis désolé d'avoir été si long, je pense qu'on pourra peut-être dépasser un petit peu si dans la discussion. Je ferai plus court les prochaines fois, c'est promis.